Quand je vois la première partie, c'est extraordinaire. Quand j'entends par exemple Hermina avec son groupe chanter, moi je suis ému de compassion. Parce que, vous savez, Hermina, elle habite à Toul, les autres habitent à Vendeuvre, et puis ils arrivent à former un groupe. C'est extraordinaire. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est, je dis à Hermina, « Hermina, tu veux pas chanter deux chants ?» Elle me dit, « Pas de problème, frère Daniel. » Je dis, « Tu peux me donner le titre des chants et puis la longueur des chants ?» Non. Et moi, ça m'angoisse. Et je suis paniqué. Et je me dis, « Mais est-ce qu'elles vont venir dimanche ?» Et puis elles sont là. Il y a Michael, il y a Hermina, il y a Odette, il y a Dany, il y a Lionel. Et ils nous font quelque chose d'extraordinaire. Et à chaque fois, ça se passe comme ça. Et je me dis, pourquoi je me pose des questions, après tout. Voilà, bonjour à toutes et à tous, qui êtes venus ce matin donc pour glorifier Dieu et recevoir la parole que le Seigneur destine à chacun et chacune. Soyez bénis. Alors j'aimerais commencer cette prédication en vous accueillant par ces magnifiques paroles de l'apôtre Pierre. Et je ne vais pas les lire exactement comme c'est marqué, parce que je vais me les approprier. C'est-à-dire, c'est pour moi. 1 Pierre 3,8. Vous, et puis pour vous bien sûr, hein, vous qui êtes toutes et tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Vous qui ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, vous qui bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est beau, hein ? Voilà. Frères et sœurs, qui pratiquez ces belles paroles de Pierre ? Vous les pratiquez, bien sûr, hein ? Vous êtes, dit la parole de Dieu, héritiers de la bénédiction divine. Frères et sœurs, Pierre vient de décrire en quelques mots l'Église compassionnelle. Frères et sœurs, vous reconnaissez-vous dans cette belle exhortation de Pierre ? C'est pas évident, hein ? C'est pas évident. Il y en a combien qui se reconnaissent ? Personne ? D'accord. Un jeune garçon dont le papa était prédicateur, ou ancien peut-être aussi, lui fit cette réflexion. « Papa, pourquoi ne fais-tu pas à la maison ce que tu prêches à l'église le dimanche ?» Belle question, hein ? La seule réponse que ce papa a pu apporter, « Parce que je ne suis pas Dieu. » Alors c'est vrai, mais on ne peut pas se cacher derrière cette excuse pour justifier nos manques et nos manquements. En réalité, notre vie chrétienne est bien souvent comme un puzzle incomplet. Certaines pièces existent, d'autres manquent, et nous vivons rarement ce à quoi Dieu nous appelle, ce qui finit par nous décourager. Pourtant, l'exhortation de Pierre est claire, et elle est appelée à être pratiquée par tous. Soyez toutes et tous animés de la même unité, dans les mêmes pensées et les mêmes sentiments. C'est beau, ça, hein ? Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. On l'est tous, hein. Qu'aucun de vous ne rende le mal pour le mal. Soyez au contraire dans la bénédiction. Faites du bien aux autres. C'est à cela que nous avons été appelés. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité qu'il faut pratiquer. Alors pourquoi parler ce matin de l'Église compassionnelle ? Puisque notre projet d'Église est tout entier orienté vers l'Église missionnelle. Alors, est-ce que je m'engage dans une dissidence ecclésiale ? Non, je vous rassure, pas question, pas de schisme, pas de divergence. J'adhère totalement au projet d'Église, mais je vais vous expliquer. En réalité, il n'y a qu'une seule véritable Église, c'est celle du Christ. Voilà, on est d'accord là-dessus. Éphésiens 5, 23, Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Je reviendrai souvent à cette définition. L'Église compassionnelle, c'est l'Église qui incarne, qui enseigne et qui vit l'identité du Christ qui est amour, compassion, miséricorde et grâce. Nous allons en parler dans un instant. L'Église missionnelle, c'est la vocation qu'a l'Église à faire des disciples du Christ qui eux-mêmes vont faire d'autres disciples. Et là, je vais en dire quelques mots. Alors, l'Église missionnelle, qui est vraiment le projet de l'Église, répond à l'exhortation lancée par Jésus ressuscité à ses disciples du haut de la colline de Galilée. Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà, ça c'est l'Église missionnelle. C'est l'envoi missionnel, l'envoi mission, en mission de l'Église, qui revêt selon moi deux volets. Alors le premier, c'est un volet missionnaire, constitué d'hommes, de femmes, de couples envoyés et soutenus par la prière et financièrement par les Églises, dans le monde entier non-croyant, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, ce sont les missionnaires. Et puis un volet missionnel qui est plus local, dans un cercle plus restreint. C'est en effet de la responsabilité de chaque chrétienne, chaque chrétien, d'annoncer à son entourage la mort et la résurrection de Jésus. Alors, non pour l'amener à l'Église, forcément, mais pour lui ouvrir l'accès à la vie éternelle en l'amenant à Christ. Et ça, c'est la partie la plus importante. Et Matthieu 5, 14 le dit clairement, « Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus à ses disciples. » Alors, en réalité, l'Église missionnelle, et c'est très important, ne peut exister sans l'Église compassionnelle. Ce n'est pas possible. Et Jésus le dit clairement. Jean 13, versets 34-35. Il dit « Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, au fait que vous vous aimez les uns les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimez, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Voilà. Donc un disciple, c'est un chrétien qui est appelé à rayonner, appelé à témoigner l'amour, la compassion du Christ autour de lui. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Alors, tout d'abord, l'Église compassionnelle. L'expression est formée d'un nom et d'un adjectif. C'est avant tout l'Église qui vit la compassion. Alors, l'Église, c'est quoi? Voilà la définition la plus courte, la plus simple, la plus élémentaire que j'ai trouvée, il y a peut-être une plus courte encore, de l'Église, c'est « l'Église, c'est nous ». Vous en trouvez une plus courte? L'Église, nous? Voilà. L'Église, c'est nous. Encore faut-il bien s'entendre sur ce que l'on entend par « nous ». Nous, c'est la communauté de celles et ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu sur terre en chair, qu'il est mort sur la croix pour nous délivrer du fardeau du péché que nous portons toutes et tous par l'héritage d'Adam et Ève. Voilà, ça c'est nous. Nous, c'est la communauté de celles et ceux qui croient par la foi et non par la vue que Jésus-Christ ressuscité est vivant, qu'en lui ouvrant tout grand leur cœur, nos cœurs, ils l'ont reçu par le Saint-Esprit qui va transformer leur vie à l'image de Jésus-Christ. Nous, c'est la communauté de celles et ceux qui, par leur lien, par le lien de la foi, sont unis à Jésus, qui vit en eux. Et par le même lien de la foi, ils sont unis entre eux pour former un seul et même corps, le corps du Christ, qui est l'Église. Et enfin, nous, ce sont donc toutes et tous les rachetés. Alors nous expliquerons ce mot un peu plus tard, les rachetés, qui ont bien voulu accepter que Jésus soit leur sauveur, qui vivent une vie nouvelle, certes encore imparfaite, mais que Jésus veut rendre progressivement sainte par l'action conjuguée du Saint-Esprit qui vit en eux et de la tête qui est Jésus-Christ qui dirige l'Église. Voilà, c'est ça l'Église, c'est nous. La Bible donne deux belles images de l'Église, qui est tout entière consacrée à Jésus-Christ. Alors, celle du corps, soumis à la tête, Éphésiens 5, 23, « Christ est le chef, Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà, ça c'est une définition de l'Église. Et la deuxième, l'Église, c'est la communauté construite sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et on retrouve ça en Matthieu 16, 18. S'adressant à l'apôtre Pierre, Jésus fait ce magnifique jeu de mots. Il dit « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, ce rocher qui est Jésus-Christ, je bâtirai mon Église. » Alors vous voyez que des fois, moi quand j'étais catholique à l'époque, je croyais que c'était sur Pierre qu'avait été bâti l'Église, alors qu'en fait c'est sur Jésus-Christ. Il résulte de tout ce que nous avons vu que l'Église qui est nous possède tout l'ADN, tout le caractère, les attributs divins de celui qui en est la tête et le fondement, Jésus-Christ. Cet ADN est en particulier la compassion qui est une composante de l'amour divin. Vous voyez, l'ADN, c'est 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Voilà, ça c'est l'ADN. Maintenant, Ésaïe 54, verset 8, « Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, dit Dieu. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. » Compassion de toi. On voit que ce sont deux mots différents, amour et compassion, mais qui sont très proches l'un de l'autre. Lorsque je travaillais encore, là je suis en retraite depuis 5 ans, lorsque je travaillais encore à Flavigny en tant que kiné, j'avais invité un jeune handicapé à venir donc passer le week-end chez moi, et je lui avais parlé de Dieu. Je lui avais cité ce passage d'Ésaïe, et Jean-Luc m'a regardé et m'a dit « Je ne veux pas, Daniel, qu'on ait pitié de moi. Je ne veux pas. » Pour Jean-Luc, compassion était synonyme de pitié. Pour lui, Dieu le regardait avec mépris, avec pitié, à cause de son handicap. Est-ce que nous avons le même regard sur Dieu que Jean-Luc? Est-ce que nous pensons la même chose que lui? Frères, sœurs, le regard humain de Jean-Luc n'a rien à voir avec le regard bienveillant de Dieu. La compassion de Dieu vient d'un cœur du Père qui déborde d'amour. L'amour de Dieu, tel un fleuve impétueux, coule par vagues successives du cœur du Père vers nous. Sa compassion exprime toute sa bienveillance, tout son intérêt pour nous. Elle vient rencontrer nos insuffisances, nos blessures, nos douleurs, nos faiblesses. Elle vient vraiment les colmater aussi. Bien souvent, la compassion divine est associée à un autre mot, un adjectif. Est-ce que vous savez lequel ? Ému, ému de compassion. Marc 6, 34. Jésus descendit de la barque. Il vit devant lui une foule nombreuse. En la voyant, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion, car tous ces gens étaient là comme des moutons sans berger. Frères et sœurs, la réaction émotionnelle de Jésus devant la misère spirituelle du monde est saisissante. Elle interpelle. Face à celles et ceux qui vont à la mort éternelle, qui sont perdus, qui sont égarés, parce que personne ne les éclaire, ils n'utilisent ni le bâton, ni les reproches, ni même l'indifférence, mais la compassion. Il est ému de compassion. Il va prendre du temps, se consacrer à eux, alors que Jésus est fatigué. Il va se consacrer à eux, et même à eux qu'il ne connaît pas. Alors, il se mit à leur parler longuement pour les instruire. Vous voyez, il était à bout de force, mais il va leur parler longuement parce qu'il a compassion d'eux. Frères, sœurs, l'Église compassionnelle a un cœur ému de compassion, et non de mépris pour les faibles, les perdus, tous ceux qui meurent spirituellement et pour lesquels Jésus est mort sur la croix. Elle accueille tous les perdus, même ceux et celles qui dérangent. Vous voyez, des fois, nous, dans l'Église, il y a peut-être des gens, moi, que je dérange, ou il y a peut-être des gens qui me dérangent, mais Jésus accueille tout le monde, tout le monde. Jésus est mort sur la croix. Avez-vous ce même cœur de compassion que lui? La compassion, c'est comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, c'est souffrir avec l'autre. Et ça, ce sont des termes importants. L'Église compassionnelle, c'est avant tout une Église de racheté. L'Église compassionnelle est profondément marquée par la gratitude et la reconnaissance qu'elle doit à celui-là seul qui a donné sa vie, qui s'est offert pour chacun de ses membres, pour les racheter. Et je vais, comme promis, vous expliquer brièvement ce que signifie « racheter », car c'est important. Parce que si on ne sait pas ce que ça veut dire « racheter », on ne peut pas avoir de la compassion. Toutes et tous, sans exception, nous étions depuis notre naissance les esclaves spirituels de deux maîtres exigeants et invisibles. Donc on ne les voyait pas. Mais c'était le péché et Satan, l'ennemi de Dieu, et le père du péché. Sous cette double férule, cette double autorité, nous étions toutes et tous privés de la présence de Dieu et dominés par la puissance du mal. Il n'y a personne qui a échappé à ça. La Bible dit clairement que personne ne n'est libre, contrairement à ce que dit Rousseau, qui dit que l'homme n'est libre, mais que c'est la société qui le pervertit. Non, on est tous nés pécheurs. Aucun prix d'origine humaine n'est accessible au rachat de notre liberté. Aucun prix. Parce que Satan a placé les enchères si hautes que seul le sang pur et innocent du Fils de Dieu a la capacité de payer le prix de notre liberté. C'est le seul prix qui est possible pour nous racheter. En mourant sur la croix, Jésus non seulement a payé le prix exorbitant de notre liberté, mais il a pris sur lui le péché qui nous dominait. Et par sa mort, Jésus a détruit l'acte de propriété qui nous liait à Satan. Jésus nous a donc rachetés, puisqu'avant, nous étions sous la férule de Satan, c'est lui qui nous possédait, et maintenant Jésus, il nous a rachetés. Donc on lui appartient. À présent, nous sommes libres. En choisissant Jésus par la foi, nous lui appartenons. Nous appartenons plus à Satan ni au péché. Frères, sœurs, le rachat est un acte capital pour l'Église compassionnelle. Puisque nous avons été rachetés, nous n'avons aucun mérite personnel. En quoi, moi, je ne me suis pas racheté tout seul, j'ai rien fait pour ça. C'est Jésus qui a tout fait. Et cela nous invite à l'humilité. L'humilité, ce n'est pas dire bah, « je suis rien, je ne joue pas grand-chose ». Non, c'est se souvenir en permanence d'où on vient et qui nous sommes vraiment. Nous sommes des graciés en Christ. Voilà, quand on se rappelle ça, bah, ça nous rabaisse. D'accord ? Alors, en toute occasion, faisons preuve d'humilité. Jésus, après notre rachat, nous a accueillis comme des fils et des filles. La parabole du fils prodigue est un exemple pour l'Église compassionnelle. Elle est la parabole, un symbole de la compassion de Dieu pour l'humanité. Alors, je vais vous la résumer. Luc 15, versets 11 à 24, parce que je ne vais pas tout lire, c'est trop long. Un père avait deux fils. Vous imaginez, un père qui a deux fils. Le plus jeune lui dit, « Allez, donne-moi ma part d'héritage qui me revient, car je veux vivre ma vie. » Le père s'exécuta et le fils partit pour l'étranger. Là, il mena une vie de débauche et dilapida sa part d'héritage. Puis il mena une vie misérable, parce qu'il n'avait plus d'argent. À bout de force, il décida quand même de retourner vers son père. Mais il se posait la question, « Comment est-ce que je vais être accueilli ?» En fait, cette parabole parle de nous. Elle parle de vous, elle parle de moi, elle parle de nous. Ce fils, c'est nous. Il représente l'humanité égarée qui dilapide son capital spirituel dans une existence sans saveur et qui mène au néant. On le voit bien tous les jours. Dans la détresse, le fils prend la bonne décision, celle de revenir vers son père. C'est l'image de celles et ceux qui décident de revenir vers leur Créateur, sans savoir comment ils seront accueillis par lui. Alors, comme le fils était encore à bonne distance de la maison, le père l'aperçoit, et son cœur tressaille dans sa poitrine. Il est saisi d'une profonde compassion pour lui. Malgré son grand âge, vous voyez, il court encore à sa rencontre, il se jette à son cou et l'embrasse longuement. C'est beau. Et nous avons bien souvent la vision d'un Dieu redoutable, prêt à nous corriger pour la moindre faute, un Dieu lointain qui porte peu d'intérêt à ses créatures, qui les laisse croupir dans leurs soucis et leurs difficultés. Est-ce que c'est la vision que nous avons de Dieu ce matin ? Est-ce que nous voyons Dieu comme ça ? Au contraire, cette parabole de Jésus montre à travers ce Père, qui est l'image symbolique de Dieu, un amour inconditionnel qui ne rend pas le mal pour le mal. Vous imaginez, vous avez créé une fortune, et puis votre fils, il dilapide la moitié de la fortune. Après, vous allez l'accueillir les bras ouverts. Aucun reproche, rien du tout. Ben non, c'est pas ça. Le Père, il se jette à son cou. Il accueille et ouvre son cœur au fils infidèle, à la brebis perdue. Il accueille la console et l'honore. C'est merveilleux, quoi. C'est quelque chose qui est émouvant. Mais cette attitude compassionnelle du Père incarne le modèle de la marche par l'esprit que chaque chrétienne, chaque chrétien est appelé à pratiquer. On devrait avoir le même comportement que le Père. On devrait accueillir chacun avec amour, même ceux qui nous font du mal. Ce comportement compassionnel contraste énormément avec celui du fils aîné, qui dans la parabole incarne toutes nos réactions humaines, charnelles, qui s'opposent à l'Esprit de Dieu. Alors écoutez plutôt ce que le fils incarne. Alors le fils aîné se mit en colère, la colère, et refusa de franchir le seuil de la maison. Il dit à son père, « Cela fait tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Avec ça, pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, il n'aime même pas son frère, hein, il pouvait s'appeler Patrick, Jean, mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des filles de joie, pour lui, tu tues le veau gras. » Voyez comment dans le cœur il y a de l'amertume, comment il y a des choses graves. Nous pouvons parfaitement nous retrouver dans l'attitude du fils, qui est hors de lui, qui est en colère, obstiné dans son absence de compassion, jaloux de son frère cadet, qui fustige le comportement de son frère, le critique et l'accable. Toutes ces attitudes charnelles s'opposent à l'Esprit de Dieu et donc à l'Église compassionnelle. Voilà. Il ne faut pas que ces sentiments soient en nous, parce qu'on ne peut pas vivre l'Église compassionnelle avec des sentiments pareils. Le juge Franck Caprio, bon, vous le connaissez peut-être pas, moi je ne le connaissais pas non plus, hein, mais je l'ai vu sur l'LCI la dernière fois, un juge américain est décédé le jeudi 21 août 2025, donc c'est récent. Ce juge, qui avait 88 ans, était chrétien. Il était le symbole vivant de la compassion et était reconnu et admiré aux États-Unis. À un homme de 96 ans qui avait été arrêté pour excès de vitesse, il demanda d'une voix douce, « Monsieur, expliquez-moi ce qui s'est passé. » « Monsieur le juge, je conduisais à l'hôpital mon fils atteint d'un cancer. » Franck Caprieux posa sur lui un regard rempli de compassion et lui dit, « Monsieur, vous êtes un homme bien. » Il se met à sa place, il se met à la place de cet homme et il le comprend. Est-ce que nous avons les mêmes sentiments ? Alors, le fonctionnement de l'Église compassionnelle, vous l'avez à présent toutes et tous compris, l'Église compassionnelle que nous sommes reçoit absolument tout de Dieu, par trois sources, qui sont sa tête, qui est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui vit en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et par l'amour que Dieu a placé dans nos cœurs. Donc tout vient de Dieu. Romains 5:5, Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Donc, il n'y a rien qui vient de nous pour l'instant. C'est donc par notre relation intime avec Dieu et par notre marche dans l'Esprit que nous allons fonctionner, et non par nous-mêmes, par nos propres forces. 2 Thessaloniciens 3:5, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. Alors si toute notre énergie compassionnelle vient de Dieu, nous sommes toutes et tous confronté à deux oppositions, à deux ennemis majeurs. Le premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous. Car si Jésus a pris sur lui tous nos péchés, nous continuons à vivre, hélas, dans un corps fait de chair. Et cette chair nous tire vers le bas. Voilà. Hein, si on n'était que esprit, on n'aurait plus de problème. Mais nous sommes corps et esprit. Et la chair, eh ben, nous tire vers le bas. Romains 8, 10, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie. Alors oui, pour s'en échapper, pour être tiré vers le haut, eh bien, il faut marcher par l'esprit qui éteint les ardeurs de la chair. Le second ennemi, c'est Satan. Hélas, si nous avons changé de propriétaire, si nous sommes plus esclaves de Satan, eh bien Satan, l'ennemi de Dieu, est à présent devenu maintenant notre adversaire et nous combat. Vous voyez, avant, c'est lui qui nous possédait, on ne pouvait pas s'en sortir, maintenant il est devenu notre adversaire et il nous jette des pierres. 1 Pierre 5,8, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Alors pour le vaincre, eh bien résistons-lui par notre unité avec Dieu. Alimenté par la puissance divine, mais combattu par Satan et freiné par la nature charnelle, eh bien l'Église compassionnelle, elle témoigne avant tout l'amour, la compassion du Christ à l'intérieur, dans le sein de l'Église, mais elle témoigne aussi à l'extérieur, vers le monde. Pour toutes les raisons données précédemment, l'Église compassionnelle est loin d'être parfaite. Vous connaissez des églises parfaites ? Il n'est d'ailleurs aucune église qui soit parfaite. Ce n'est pas possible, puisqu'on est des gens imparfaits. C'est donc par la force que Dieu nous donne que nous avançons, bien qu'imparfaits. Éphésiens 6,8, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. C'est ça qu'il faut faire. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Son fonctionnement pratique, le fonctionnement de l'église compassionnelle. Vous voyez, l'apôtre Paul, lui qui avait fondé des églises, eh bien, il se plaignait aux Philippiens en ces termes. Il disait aux Philippiens, Philippiens 2, 20, 21, Timothée, qui était son fils spirituel, il est le seul ici qui partage avec moi un réel intérêt pour vous. Vous voyez ? Car dans l'ensemble, chacun ne pense qu'à soi. Vous voyez, dans une église, si on ne pense qu'à soi, et s'inquiète de ses affaires personnelles au lieu des intérêts de Jésus-Christ. Paul, en tant que responsable, il dénonce l'égoïsme dans l'Église. Mais nous sommes des êtres humains et nous avons parfois des accès d'égoïsme. Ce matin, j'aimerais apporter quelques exemples personnels, tantôt positifs, tantôt négatifs, bah tant pis, hein, qui caractérisent l'Église compassionnelle dirigée par le principe biblique « Aime ton prochain comme toi-même ». Et je vais donc aussi parler forcément de vous. Êtes-vous prêts à entendre ? Tout d'abord, l'Église compassionnelle est une Église qui accueille avec bienveillance. L'accueil va bien au-delà du rituel. Ça va ? Oui, ça va. Bon, ça va, même si ça ne va pas. Hein. L'apôtre Paul écrit, Romains 15,7, « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Voilà, ayez une relation un peu plus profonde que les « ouais, ça va pas, oui ben, ». J'ai vu, moi, ce matin, on m'a demandé « ça va ?» J'ai dit « ouais, ça va ». L'accueil, c'est rencontrer l'autre, l'accepter dans ce qu'il est, dans ses blessures, ses différences, ses faiblesses, et ce n'est pas facile d'accueillir comme Jésus nous a accueillis. Alors, je vais vous faire une confidence. Depuis plus d'un an, Dieu m'a mis à cœur de prier chaque matin pour un grand nombre de personnes, et en particulier pour l'église de Vendeuvre. Alors je me lève, je n'ai pas de mérite parce qu'en fait, j'arrive pas à dormir bien, donc je me lève à 5h30, 6h, et tous les matins, je prends pratiquement 3 quarts d'heure pour prier pour vous. Voilà, je prie pour chaque membre de l'église. Alors forcément, je ne peux pas dire que je prie pour tout le monde ici, parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent pour la première fois. Il y a des gens qui viennent pour la première fois ici. Voilà, donc je ne peux pas dire que je prie pour vous, puisque je ne vous connaissais pas. Hein. Donc ce serait mentir. Mais je prie pour le grand nombre de ceux qui sont ici, même de ceux qui ne font pas partie de l'Église. Je prie pour Mohamed et Zina, qui sont mes bons frères et belles-sœurs. Bon, je prie pour Brigitte et pour Dominique, qui ne sont pas non plus dans l'Église. Mais je prie profondément pour chacun de vous. Donc, je ne vais pas vous dire pourquoi je prie, mais je prie vraiment pour des choses bien particulières. Je ne dis pas ça ce matin pour que vous veniez à la fin du culte me dire « Ah, merci Daniel d'avoir prié pour moi, c'est super, c'est sympa, merci. » Ce n'est pas du tout pour ça. Ce que je veux vous partager, c'est qu'en faisant ce que le Seigneur m'a demandé, parce qu'il m'a demandé de prier, eh bien je me suis aperçu combien vous deveniez important dans mon cœur. Vous deveniez plus précieux à mes yeux en vous portant dans la prière. Vous avez pris une grande valeur pour moi. Par exemple, je prie pour Théa et pour Christelle. Mais je suis heureux et je suis content. Je suis content pour quand Michael me partage des choses. Je suis content quand je peux aussi prier pour Samuel quand il part en voyage. Il est parti en vacances et ça me saisit le cœur. Je prie pour Carmela, je dis, mais comment va son dos? Et je suis ému de compassion quand je vois Carmela. Elle a mal au dos, mais elle vient à l'église. Parce que c'est douloureux. Je suis ému de compassion quand je vois Vincent, que j'ai invité ce matin, qui est venu. Merci Seigneur, merci. Caroline, voilà. Je prie aussi pour mon petit frère qui veut être crémier et qui réussisse bien dans sa vie. Voilà, mais je ne peux pas, parce que sinon ça prendrait une heure et demie. Mais je vous aime davantage quand je prie pour vous. Et c'est fou. Et vous avez de l'intérêt à mes yeux quand je prie pour vous. Essayez de prier pour quelqu'un et vous allez voir si vous n'avez pas d'intérêt pour lui. L'église compassionnelle commence et se prolonge jusqu'à la maison. Dans l'église compassionnelle, on pense à l'autre avant de penser à soi. Ouais. Il y a quelques jours, j'étais à la maison et je préparais la prédication de ce matin. Bon, je préparais la prédication, j'étais bien concentré. Ma fille Julia est venue et j'ai préparé le café. Et je pensais remonter rapidement dans mon bureau pour me concentrer sur la prédication. Quand mon épouse Wardia, mon épouse bien-aimée, me dit « Tiens Daniel, tu pourrais pas m'éplucher des pommes de terre ?» Non mais franchement, elle me dit c'est pour m'avancer pour le repas de midi. Non mais franchement, Wardia, tu crois que j'ai que ça à faire? Tu crois que j'ai que ça à faire d'éplucher des pommes de terre alors que j'ai un message important? Franchement, ça m'a très fortement dérangé. Je lui ai fait savoir et ça l'a blessé. Vous imaginez un seul instant un ancien de l'église de Vendeuf qui prépare un message sur la compassion et qui manque de compassion. Bon. Heureusement, et en plus devant sa fille, quel témoignage, mais heureusement, l'église compassionnelle sait aussi se repentir. J'ai demandé pardon à Wardia, et l'église compassionnelle sait aussi supporter l'injustice et accorder le pardon, elle m'a pardonné. Et c'est ça l'église compassionnelle. Qu'est-ce qu'il y a, Brigitte ? Je les ai épluchées quand même. Mais pas toutes, parce que je suis un réfractaire. Bon, vous le voyez, l'église compassionnelle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, elle commence par moi. On peut la voir comme cette bouteille. Vous voyez une bouteille ? On peut la voir de deux façons. À moitié vide, c'est-à-dire à moitié imparfaite, elle a jugé, l'a critiqué, ou à moitié pleine, c'est-à-dire presque parfaite. Vous voyez, on n'a pas tort. Hein. La bouteille, quand elle est à moitié vide, on a raison. Quand elle est à moitié pleine, on a raison aussi. Quand l'Église est imparfaite, on a raison. Quand elle est presque parfaite, on a raison aussi. Mais ce n'est pas la même vision. Parce que quand on la voit imparfaite, eh bien, on commence à la critiquer, on commence à la juger, et on finit par la quitter. Mais quand on la voit presque parfaite, on a envie de s'engager, on a envie de l'encourager, et ça c'est différent. Le jugement et les critiques. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains 14, versets 17 à 13, condamne celles et ceux qui jugent et condamnent les autres. Romains 14, versets 10 à 13. Toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal du Christ. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Frères, sœurs, l'Église qui juge et condamne des frères, des sœurs, les autres, prend la place de Dieu et n'est pas l'Église compassionnelle. C'est à Dieu à juger, c'est pas à nous. L'encouragement. Ça, c'est important de s'encourager dans l'Église, les uns les autres. Vous savez, alors, c'est pareil, je vais vous dire, on n'était pas venu au culte depuis deux dimanches de suite, c'est pas bien. Mais c'était pour des raisons familiales. Le lundi matin, j'ai reçu deux messages sur mon portable. L'un d'Hernan, il est là, il est descendu, bah, tu le transmettras. L'un d'Hernan et l'autre de Léonel, qui ne m'ont pas dit, frère Daniel, tu es ancien de l'Église et on ne te voit pas au culte, c'est honteux. Ils auraient pu me dire ça. Franchement, c'est scandaleux. Enfin, franchement, qu'est-ce que tu fais chez toi alors que tu devrais être à l'Église? Non, tous les deux m'ont demandé, frère Daniel, cela fait deux dimanches qu'on ne t'a pas vu au culte. N'as-tu pas un problème de santé? Comment vas-tu? Et Hernan a rajouté, tu nous as manqué. J'ai failli pleurer, moi. Franchement. Non, mais la compassion. Franchement, frères et sœurs, ça m'a touché et encouragé. C'est ça l'amour fraternel, c'est ça l'Église compassionnelle. Personnellement, j'ai été ému de compassion et encouragé, peut-être vous aussi, par ce qui s'est passé dans notre Église lors de l'onction d'huile de Hugo. Notre très cher frère en Christ qui souffrait tellement dans son corps et dans son âme qu'il a fallu que deux frères le portent sur une chaise de devant ici. Et pourtant, c'est un garçon très jeune. Hein. J'ai été ému de compassion en voyant Hugo prostré, gémissant, alors que c'est un garçon qui est plein de vie d'habitude et qui a peu marché. Job 6,14 dit « Celui qui souffre a le droit à la compassion de ses amis ». J'ai été ému de compassion par toutes les larmes de l'Assemblée. Je voyais des gens pleurer. Mais ce n'était pas eux qui étaient atteints, c'était Hugo. Mais ils pleuraient pour Hugo. J'ai été encouragé en tant qu'ancien par notre sœur Marie-Angelina qui m'a dit « Eh, on vous soutient les frères, on est là, on vous soutient les anciens ». Bon, ben ça m'a fait fou. J'ai été ému de compassion par l'unité de l'Église, l'unité de l'Esprit qui a soufflé sur Hugo lors de nos prières. J'ai senti que toute l'Église était derrière nous. C'était fabuleux. J'ai été bouleversé quand Jean-Haut nous a annoncé le soir même « Notre frère Hugo marche, il est guéri ». J'ai failli tomber. C'était extraordinaire. De même, l'Église compassionnelle que nous sommes est émue de compassion pour celles et ceux qui, dans l'Église, passent par la fournaise de l'épreuve. Que ce soit la maladie, et ça touche aussi le cœur, les accidents, la solitude, la vieillesse. Nous sommes émus de compassion et encouragés par celles et ceux qui ouvrent leur cœur, leur table, leur maison pour accueillir des frères et des sœurs, des familles en difficulté, et chacun se reconnaîtra. Voilà, je vais conclure maintenant cette prédication et je vous demande de prendre un moment de réflexion et en état de prière. Et j'ai demandé à trois personnes de l'Église, donc à ma sœur Bernadette, à ma sœur Christiane et à mon frère Samuel, s'ils voulaient lire ce passage donc de Romains 12, versets 10 à 21, voilà, donc à trois voix.
L'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité. Et haïssez le mal. Ayez-le en horreur. Et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement.
Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frère une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous êtes tant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des dégâts.
Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance.
Considérez-vous comme solidaires des chrétiens dans le besoin. Soutenez vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Exercez vos devoirs d'autres avec empressement et bonne grâce.
S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent.
Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des uns. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Abandonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous sous-estimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous ne l'êtes. Et n'ayez pas l'insolence de penser que vous avez déjà tout compris.
Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes.
Mes amis, vous faites point justice vous-même et prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux sur qui il veut, car il est écrit, c'est à moi qui appartient à la vengeance, c'est moi qui rendrai à chacun son culte.
Pour vous, ajoutez suivant cet autre texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le chemin de la repentance. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien.
Amen. Amen. Voilà, puissions-nous pratiquer ces choses. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, on peut en discuter. Voilà. Merci pour tout.